Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il n'y a pas énormément d'équipes qui nous a mis réellement en difficulté, mis à part Paris cette année dans le jeu où voilà, on a bu l'eau.
Alors on doit relever la tête de l'eau et avancer.
Même avec tout le respect que j'ai pour Caen, voilà, c'est une équipe qui est après bien sûr qui vole sur l'eau en ce moment.
Paris Saint-Germain, il court un peu sur l'eau pour le moment.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h05, Walid Acharchour est toujours là, Daniel Riolo, Kevin Diaz et Pierre Sage avec nous ce soir, entraîneur de Lens. Il y a un sujet qu'on voulait aborder ce soir dans l'after, c'est la formation des coachs. Parce que Pierre a un parcours atypique. En France, en gros, pour être accepté dans les sessions de formation d'entraîneur professionnel, bah, il faut avoir un vécu de joueur. Voilà, c'est comme ça qu'on le voit. Il faut avoir joué un certain nombre de matchs en Ligue 1, avoir des sélections en équipe de France, ce qui ferme la porte à beaucoup de monde. Et la réussite de Pierre, finalement couronné meilleur entraîneur de Ligue 1, est un contre-exemple parfait. Et très intéressant aujourd'hui sur X, hein, une longue explication que je vous invite à lire d'Enzo Djebali sur ce sujet nous a amené à l'appeler. Enzo, lui qui est déjà venu dans l'after, qui est recruteur en chef en MLS au FC Dallas et qui est en ligne avec nous. Bonjour, bonsoir Enzo, enfin bonjour chez toi aux États-Unis.
Oui, bonsoir Gilbert et bonsoir à tous, vous allez bien?
Salut Enzo.
Ça va. Salut. Tu dis sur X, Pierre Sage incarne précisément les profils que la Fédé et l'UNECATEF n'ont jamais identifiés comme leur fer de lance. Il révèle l'échec stratégique du retard de nos instances avec des dogmes hérités de Georges Boulogne. Georges Boulogne, c'était limite il y a 200 ans. Hein, donc
un sujet qu'on a abordé depuis 20 ans, ça a été un de nos sujets majeurs, ça.
Oui, mais là, Enzo va plus loin parce qu'il compare aussi avec ce qui se fait dans d'autres pays de football. Alors Enzo, si tu veux un peu développer ça, et puis après on prendra l'avis de Pierre, bien sûr.
Oui, parce que l'idée en fait c'était de se dire que il y a une sorte de numerus clausus en France qui est aussi légiféré par l'UEFA, c'est-à-dire qu'on a 10 candidats au BEPF chaque année. Malgré tout, il y a des pays qui, on va dire en demande de dérogation, peuvent enlever ce numerus clausus de 10 personnes et donc faire en sorte qu'il y ait plus de candidats et des candidats qui sont plus légitimes ou alors plus prometteurs. Et cette année, on a quand même beaucoup d'exemples qui sont passés un peu par la fenêtre dans les candidatures au BEPF. Je pense notamment à Jordan Grosales à Versailles, parce que c'est un coach qui a été recruté par Versailles malgré le fait qu'il manquait de diplôme et qu'ils ont budgété le fait qu'il fallait faire en sorte que c'est le coach du futur et donc on paierait les amendes. Et ben malgré tout, comme il va être en Ligue 3 l'année prochaine, et ben la FFF a été un peu forcée et contrainte de ne pas le rendre illégal sur le long terme et donc de l'intégrer au BEPF. Et il y a pas mal de coachs dans ce profil là.
Alors c'est vrai que entraîneur de football, on a l'impression que c'est un métier pour y arriver en France. Bon, il faut être dans les petits papiers en fait. Enfin, c'est l'impression que ça donne, Pierre.
Alors déjà pour entrer dans une formation, et notamment le BEPF, il y a soit le nombre de matchs, mais il y a aussi les années de contrat à un certain niveau.
Ouais.
Et ce sont des prérequis incontournables avant de passer un entretien. Et une fois qu'on est dans l'entretien, effectivement, il faut avoir le profil, je dirais. Et le profil, il est souvent évalué par rapport à l'employabilité. C'est-à-dire la capacité à décrocher des contrats avec ce diplôme-là. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi-même, je n'avais pas les prérequis pour entrer en formation. Donc j'ai dû faire à ce moment-là une VAE. Et cette VAE a été possible parce qu'elle a été réformée. Sans quoi j'aurais dû attendre encore 6 mois. Et je n'aurais pas pu prolonger mon contrat à Lyon.
La direction technique nationale qui constate que donc...
Qui est dirigée par...
Hubert Fournier,
voilà. Merci. Daniel fait exprès, hein. c'est un running gag de l'after.
Ouais, mais je trouve qu'à chaque fois, personne ne répond.
La direction technique nationale qui met en place ces critères et qui a dit à un moment, il y a quelques années à Pierre Sage, non, monsieur Sage, vous n'avez pas les prérequis, constate quelques années plus tard que le même Pierre Sage est élu meilleur entraîneur de Ligue 1, gagne la Coupe de France et deuxième du championnat. Ça ne remet pas en question le fonctionnement.
Le process,
ça.
Mais bien sûr, mais le process, il est moisi depuis des années.
Moi, ce qui me dérange le plus dans tout ça, c'est le fait de ne pas pouvoir accéder au savoir, ou en tout cas à la connaissance, à assister aux cours. Après, les valider, c'est autre chose. Je comprends qu'on ne soit pas tous taillés, peut-être, pour aller au niveau, même si... Il y a des bonnes surprises, mais dans tous les cas, voilà, le fait de ne pas avoir le droit d'apprendre, je trouve ça très grave.
C'est un problème.
Kevin et Enzo ensuite.
C'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup de pays. D'ailleurs, Enzo, dans ton trade très intéressant que je vous invite à lire, tu parles notamment d'un truc que je connais, c'est qu'aux Pays-Bas, par exemple, mais au Portugal, c'est un peu pareil aussi, mais pire aux Pays-Bas, c'est-à-dire que les anciens joueurs professionnels doivent avoir le même cursus qu'un joueur amateur ou qu'un entraîneur amateur. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils doivent passer tous les diplômes. Et je peux vous dire que du coup, si ça avait été le cas en France, il y aurait beaucoup d'anciens joueurs qui n'auraient pas les diplômes. Moi y compris, je ne sais pas si j'aurais été, même si j'ai passé mes diplômes très jeune, déjà à 18 ans, j'avais l'initiateur 1. Ensuite, j'ai passé le BEF en 2015 et j'ai dû attendre pour le DES 2023. Donc, en effet, c'est un long parcours. Mais il y a beaucoup de joueurs, malheureusement, qui le passent parce que je leur en veux pas. Ils le passent parce que il y a un peu de, disons, de raccourci. Et donc, ils n'ont pas beaucoup de diplômes. Donc, ils se disent que ça peut leur aider, ça peut les aider peut-être à leur pré-carrière, de ne pas complètement couper avec le foot, de se garder un pont, etc. Mais le souci, c'est que du coup, ça prend la place de beaucoup de gens qui, eux, leur métier, c'est d'entraîner. Et moi, je vais répéter ce que j'ai dit il y a deux jours dans l'after. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'à l'avenir, avec les exigences qu'il faut aujourd'hui pour être un entraîneur de haut niveau, c'est-à-dire gérer un staff de 15, 20, 30 personnes, et toutes les exigences au quotidien que ça représente, je pense qu'il y aura de moins en moins de joueurs de très haut niveau qui voudront être entraîneurs ou qui pourront être entraîneurs.
Et plus des gens qui sont forts en management.
Voilà.
Ouais, ok.
Même pour savoir dans plein de domaines.
Pierre, d'accord avec ça?
Avec la nécessité de.
Le fait que la tendance sera plus à avoir des profils un peu comme le vôtre. Plutôt que des anciens joueurs.
Des vrais entraîneurs.
Qui, finalement, mis à part le vécu de vestiaire, en fait, ne pas forcément un bon coach.
Il ne faut pas opposer les deux.
Il y a
beaucoup d'anciens joueurs qui, ils l'ont prouvé par le passé, qui sont tout à fait capables de mener une équipe. Et à l'inverse, il y a aussi des gens du monde amateur qui sont capables d'entrer.
Oui, mais le problème, Pierre, j'entends, et tu as parfaitement raison de dire il ne faut pas opposer. Évidemment, ce n'est jamais une solution. Sauf que cette opposition, elle nous était proposée par ceux qui...
Elle était forcée.
Par ceux qui étaient en face et qui disaient « Vous n'avez pas été sur le terrain. » Pour nous, c'était la même en tant que journaliste. Vous ne pouvez pas parler de foot parce que vous ne connaissez pas le vestiaire, vous ne connaissez pas le terrain. Ça a été la même chose. Nous, je répète, dans l'after, ça a été un de nos premiers thèmes. Effectivement, on constatait qu'il n'y avait que des anciens joueurs qui étaient sur les bancs. Et alors qu'au Portugal ou en Italie, il y a gens qui ont bougé le football sans avoir été des grands joueurs, que ce soit Mourinho, Arrigo Sacchi, au Portugal, en plus il y en a plein pour le coup, qui n'était pas
un Villas-Boas,
il n'a jamais été joueur.
Il n'avait pas eu de formation,
après tu peux avoir un petit niveau Ligue 2, Ligue 3, genre Tourelle ou des choses comme ça. Voilà, plein.
Non mais après,
l'opposition elle nous était proposée par le CRA français.
Enzo, t'es
d'accord, Enzo, de dire que cette opposition, elle nous était imposée par les gens du Serail, en fait?
Non, en fait, c'est ce que je voulais dire, en fait, par rapport au paradigme. On peut se dire, c'est une logique tout à fait valable, que le vécu de vestiaire, c'est une force, et que du coup, par rapport à ça, il faut le mettre en avant. Mais dans ce cas, pourquoi l'utiliser comme un critère et pas l'utiliser comme une force équitable, en fait? Ça veut dire que dès le début, par exemple, on parlait de la Hollande, et je rebondis sur ce que disait Kevin Diaz. Les anciens joueurs, les professionnels qui sont sur leur fin de carrière, tous les lundis, ils ont accès à la KNVB Academy. C'est une sorte de programme passerelle entre la KA professionnelle et donc le lundi, c'est le jour de décrassage. Donc en général, c'est des jours plus libres pour les joueurs pour pouvoir passer justement en transition sur la carrière professionnelle. Donc justement, on peut même pousser la réflexion jusqu'au bout. Si le vécu de vestiaire est une force, pourquoi ne pas même carrément faire passer dans les clubs, le BMF, le BEF, puis le DES, donc c'est à chaque degré de diplôme, à partir des jeunes professionnels. Donc en plus, c'est tout bénef parce que ça permettrait de conscientiser les joueurs à la difficulté de tenir une séance. Et ça, je pense que Pierre serait très sensible à ça. Ça créerait du QI football naturel. Et puis donc, du coup, les pros arriveraient au BEPF beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. Et je rebondis aussi sur ce que disait Pierre sur un point qui est très important, sur l'accès à la connaissance. Peu importe le fait effectivement de passer ou pas, mais l'accès à la connaissance, aujourd'hui au Portugal, Kevin en parlait aussi, il y a aussi une filière universitaire pour arriver jusqu'au BEPF ou même jusqu'au DES. En plus, en France, on a les passerelles pour ça, puisque pour l'analyse vidéo, on utilise le DU, donc le diplôme universitaire de Montpellier, pour pouvoir former à l'analyse vidéo dans tous les sports, y compris le football. Donc on a en plus les, on va dire, les supports universitaires pour pouvoir ouvrir à ce schéma. À ce,
alors que nous, il nous aura fallu simplement.
Merci Enzo, c'était intéressant.
Salut Enzo, il nous aura juste fallu.
On renvoie donc à ton compte X.
John Textor pour prendre la décision de lancer Pierre Sage.
Merci. Qui a été peut-être une des. la bonne décision de John Textor.
Mais c'est vrai, après tout, on rigole, mais c'est vrai, Pierre.
Mais en même temps, il n'y a peut-être que lui qui pouvait le faire.
Non, mais cela dit, votre parcours est inspirant pour des tas d'entraîneurs amateurs qui se disent « il l'a fait, pourquoi pas moi ?»
Mais malgré tout, il ne faut pas se dire que ce sera la norme. Parce qu'effectivement, ça tient à la décision d'un homme. À un moment donné, où je pense sur 1 million de personnes, c'est le seul qui aurait pris cette décision-là. Et la seule chose qu'on peut leur conseiller de faire, c'est surtout de prendre soin d'eux et de leur connaissance.
Pierre, avant de se quitter, un mot sur Habib Bey, parce que vous avez bossé ensemble au Red Star.
Je crois que la soirée de l'UNFP, vous avez même eu un mot pour lui, ou j'ai raté un tout. Oui, il me semble.
Peut-être en conf. Ouais.
Oui, en conf. Ouais.
Bon.
Pourquoi ça prend pas?
Oui, tu as bien résumé ma question.
Pourquoi ça prend pas Habib Bey, toi qui le connais très très bien, toi qui l'as connu, qui a été dans son staff, t'étais pas prédisposé à être numéro 1 avant lui en Ligue 1 parce que son projet était vraiment voulu.
Ça pas Habib Bey, c'était OK. Donc il y a un problème à côté.
Hein. C'est pour ça que j'aimerais savoir. Non, mais j'aimerais savoir l'avis de Pierre là-dessus.
Je pense qu'on peut pas analyser les trois périodes, la première à Rennes, la deuxième à Rennes et celle de Marseille de la même manière. Pour moi, la première à Rennes, ça prend. La deuxième à Rennes, ça prend pas, mais il y a une forme d'attentat en interne, je trouve.
Ah, donc on peut avoir une bonne pâte à pizza, ça dépend de ce qui se passe dans les clubs quand même.
C'est ça, personne n'avait envie de porter les plats en tout cas.
Merci.
Et la dernière chose, à Marseille, ça s'est joué en trop peu de temps dans un contexte
parfaitement
qui n'était pas bon non plus.
Tu penses qu'il est mort en France ?
Non.
Ce serait totalement injuste s'il l'était, parce qu'il n'y a pas eu assez de temps. Moi, et des contextes très compliqués.
De son passé de
j'aimerais bien qu'on le laisse respirer un peu et travailler dans un contexte où il soit tranquille. Et justement, qu'on arrête de dire l'ancien consultant, qu'on respecte le fait que ce soit un entraîneur, un homme, et qu'on le laisse pour ce qu'il est aujourd'hui et pas ce qu'il était hier.
Mais alors, tu vois, Pierre.
Bravo, Pierre Sage.
Puisque je reviens, moi, sur l'idée qu'aujourd'hui, dans votre métier, la communication et la façon dont on fait passer le message, aussi bien en dehors qu'en interne, c'est un des éléments qui compte le plus pour moi. Si, à travers vous, je devais lui passer un conseil à Habib Bey, c'est que lui, qui croit être un excellent communicant, l'est peut-être moins qu'il le pense. Et qu'avoir des explications formidables, parce qu'elles le sont souvent, assez claires, elles seraient encore meilleures si elles étaient dites autrement. Et dans le foot, qui est, c'est pas insultant de dire que c'est un milieu simple, populaire, qui doit s'adresser à plein de gens, je pense que mettre un sourire de temps en temps, un petit peu de second degré, un peu d'ironie, expliquer la
vie de façon simple. Je trouve qu'il le fait.
Non, il y a toujours une sorte d'intensité dramatique.
Mais ça, c'est sa personnalité, peut-être.
Pas ça que je lui reproche,
c'est pour ça que dans la communication, la personnalité, ça se travaille aussi. Et on a le droit de pas penser que chaque match qui se joue, c'est une explication scientifique et un drama autour. Tu dois pouvoir aussi t'exprimer autrement. Et je maintiens que la communication la communication, elle est importante. Si quand tu t'exprimes aussi, parce que les joueurs écoutent de dehors l'image qu'a ton coach.
Moi, je pense qu'il pourrait faire une blague, qu'il pourrait sourire. On lui reprochait de faire une blague, de pas prendre le truc au sérieux. Il est trop sérieux.
Ça mériterait d'être tenté.
Ce qui est intéressant, surtout Pierre, c'est que moi, j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est sur les choix de carrière. Tu vois, on a, dans le premier quart d'heure, on a parlé de la suite de ta carrière. Vous êtes quand même responsable de vos choix. Et Habib Bey, d'aller à Marseille, juste après Rennes, est-ce que avec le recul par rapport au contexte, parce que Habib Bey, moi je l'ai connu au Red Star et ça a été un entraîneur qui a toujours mis en place des choses intéressantes que je ne vois pas dans des contextes beaucoup plus compliqués. Mais quand il va à Marseille, il sait que le contexte va être très très compliqué. Donc quand tu es responsable de ce choix, quand tu assumes d'aller à Marseille, moi je trouve que c'est un peu facile de dire à la fin oui, mais c'est parce que le contexte. Sinon il va pas à Marseille en fait s'il y a pas ce contexte-là.
Déjà, on lui a posé la question de savoir s'il voulait venir. Et la deuxième chose, c'est quel est ton rêve, toi, Walid ?
Bah, de continuer à parler de foot.
Voilà, donc je pense que lui, c'était son rêve.
Bah oui.
Très honnêtement. Et encore une fois, le jeu des opportunités fait à un moment donné que le timing n'est peut-être pas forcément le bon au vu de ce qui se passe. Mais malgré tout, ils n'étaient pas dans une situation catastrophique non plus. Les deux objectifs étaient encore atteignables. Et donc, il y allait. Et je pense que pour lui, c'était une grande fierté de signer à l'OM. Et c'est peut-être pour ça aussi que son mood a évolué avec toute cette pression et que du coup, on fait cette analyse maintenant. Mais j'aimerais bien le voir dans un milieu sain.
Est-ce que c'est par loyauté envers Abi Bey que tu n'irais pas à Marseille s'il t'appelle dans les prochains jours ?
Non, parce que pour moi, aujourd'hui... À la fois, je ne suis pas prêt et eux non plus ne sont pas prêts. Je pense qu'on a besoin de tous travailler sereinement avant de se rejoindre peut-être un jour.
Merci Pierre d'être venu. C'était passionnant comme toujours.
Merci à vous.
Juste une dernière question, Gilbert. Si demain tu devais être sélectionneur de l'équipe de France, là demain la Coupe du Monde commence.
Tu prends Neymar, c'est ça.
Non. C'est quoi ton 11? C'est quoi le 11 de Pierre Sage, de Didier Deschamps à la
volée? Tu balances ça comme ça là?
Là, il nous reste. Ouais. Il nous reste.
C'est comme ça à la volée, si t'as une idée, un système de jeu, l'équipe que t'aimerais voir le premier.
Rissière dans les
T'es quand même supporter de l'équipe de France, Pierre, ça m'intéresse.
La pâte à pizza de Deschamps, il travaille pas l'aspect offensif.
Non, mais si. Hein, Pierre Sage, c'est four à bois, hein. Deschamps, c'est four électrique.
J'aimerais avoir le four à bois.
Alors, ce qui est certain, c'est qu'au vu de la qualité offensive, il faudra un système avec 4 joueurs offensifs, donc sûrement un 4-2-3-1. Bien évidemment, je ferai jouer Ryan Cherki hein, avec Dembélé
derrière l'attaquant.
Ouais, je mettrai Dembélé en pointe, je mettrai Mbappé à gauche avec un latéral qui est capable de prendre l'espace pour que Mbappé vienne à l'intérieur. Olise à droite, je l'ai beaucoup aimé à droite au Bayern. Ouais. Au milieu du terrain, il y a plusieurs solutions. Hein.
L'embarras du choix, enfin, c'est homogène.
Mais c'est quoi, tu mets quand même deux profils, quoi. Genre Tchouaméni obligatoire, plus un.
Tchouaméni Koné, Tchouaméni Rabiot, Tchouaméni.
J'aime beaucoup, peut-être Rabiot, ou peut-être Zaïre Emery, un joueur qui se projette. Vu qu'on va beaucoup s'engager à gauche, peut-être un profil à droite qui est plutôt à jouer vers l'intérieur. Donc peut-être qu'effectivement Koundé fera l'affaire. Et ensuite, j'aime bien les joueurs de Liverpool et de Bayern qui jouent dans l'axe. Ce sont deux très bons joueurs.
Donc Upamecano, Konaté. Ou Upamecano, Saliba.
Saliba.
Et peut-être, on fera en même temps quand c'est le seul choix qu'on aura à faire, ça ira. Mike Maignan, bien sûr.
Ouais, je crois que c'est l'équipe qu'on mettrait tous et que peut-être Deschamps mettra.
Non, c'est plus Olise en 10 et Dembélé à droite.
C'est souvent l'équipe qui joue.
C'est plus Olise derrière l'attaquant.
Donc là, le premier joueur cité, c'est Cherki.
Mais là, c'est un manque absolu d'objectivité, peut-être, mais malgré tout, c'est un super joueur.
Et hier, chez nos amis de Téléfoot, vous avez dit, moi, Neymar, je le prends avec le Brésil.
Ouais, bien sûr. Parce que je pense que quand il y a 0-0 et on est à la 80e, on peut gagner le match s'il rentre.
Voilà. Ah
oui. Tu peux y aller parce que Daniel, de toute façon, il n'y a qu'une minute avant la pub, donc t'es obligé, tu n'allais pas te payer. Vas-y, il ne touchera pas, il n'y aura pas de combat derrière. T'inquiète pas.
Sur Neymar, il est
d'accord. Merci Pierre.
Il n'est pas d'accord.
Merci Pierre.
Merci de rester d'accord. Jusqu'à
bonne bonne.
Non, mais on peut faire une équipe en pensant à 0-0 à la 80e, c'est un beau projet de jeu. Bravo Pierre, je ne pensais pas que tu voyais le foot comme ça.
Mais peut-être qu'il rentrera sur aucun match et qu'on n'aura pas eu besoin de lui.
Ah, d'accord, donc tu le prends pour animer ton vestiaire.
Dans un instant, on continue de parler des coachs.
Merci beaucoup.
Merci à tous. À très bientôt. Merci et on parlera de Lille avec Bruno Genesio qui quitte le LOSC. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h23, Kevin Diaz, Daniel Riolo, Walid Acherchour sont là. Si vous rejoignez l'after en cours de route, vous avez tout raté. Pierre Sage était avec nous, mais c'est disponible en podcast. Supporter lancé, il y a plein de choses, évidemment, à retenir de cette longue interview concernant son avenir, concernant l'effectif du LOSC également. Avant de parler de Bruno Genesio, les gars, message important. Lundi prochain, dernière étape de la tournée de l'after, l'année de nos 20 ans arrive à son terme avec en feu d'artifice final la Coupe du Monde, bien sûr, où l'after sera. Je vous rappelle que lundi prochain, pour la dernière étape de la grande tournée de l'after, nous serons au cinéma Pâté de Valenciennes. Donc, si vous voulez venir voir l'after lundi prochain, c'est toujours possible, il reste de la place. Et bien, c'est très simple, c'est gratuit. Hein. Donc, vous envoyez un simple mail à l'adresse suivante, public@rmc.fr, public@rmc.fr. Vous dites, voilà, je m'appelle Kevin, par exemple, pour reprendre... le prénom de Kevin Diaz et je serai là avec un pote un cousin enfin
Kevin
qui
sera à Valenciennes.
Non, ça va être notre Kevin. Je suppose qu'il y a quelques Kevin à Valenciennes. Il y a des Kevin partout
mais il voilà. Y en a qu'un qui compte. Je plaisante.
Le mec est en train de vraiment, il est en train de serrer lui. Hein, là, je sais pas ce qui se passe sur la fin de saison.
Donc lundi prochain, venez à Valenciennes, participez à l'after. On va parler de l'histoire de Valenciennes, sans doute du PSG, parce qu'il y aura la finale de Ligue des Champions samedi, de l'équipe de France avec la Coupe du Monde qui arrive. Bref, public@rmc.fr si vous voulez venir, n'hésitez pas. Cinquième set à venir, peut-être à Roland-Garros, entre mon fils et Gaston Rixaglio.
Ah, tu peux enlever le peut-être, Gilbert. Le cinquième set va débuter, puisque Gaël, mon fils, a remporté la quatrième manche assez facilement. 6-2. Ça va être son 17e match en 5-7 à Roland. C'est une véritable saga. Il n'a jamais joué un cinquième contre un Français. Il n'a jamais perdu un match contre un Français à Roland. Ça paraît évident.
Bon, la seule chose qu'on n'a pas trouvé, c'est qu'on avait dit 2h du mat, mais ça sera avant.
Oui, ce sera.
Gaston, il a l'air quand même cramé. Hein.
Oui, il est cramé depuis la.
Il est blessé depuis
le milieu du deuxième.
Début du troisième.
Oui, il est cuit, hein, le pauvre.
Ouais, il est un peu cramé, Gaston. Hein. Mais bon, faut se méfier. Hein. Une année, il remonte de 7 partout contre Murray. On s'en souvient tous et il prend 6-0-5e.
Il a besoin de se mettre en route, Gaël. T'as toujours pas compris.
Un deal avec Amazon Prime pour que ça fasse la soirée.
À tout à l'heure, Eric, Bruno Genesio quitte le LOSC, officialisation de ce départ qui était dans l'air depuis des semaines. Aujourd'hui, donc voilà, on se quitte et merci, dit le LOSC à Bruno Genesio. Ça ouvre plusieurs questions. Qui pour le remplacer?
On l'a déjà dit.
Que va faire Genesio? Voilà, c'est l'un des feuilletons là des jours qui viennent.
Alors Gilbert, comme tu étais absent vendredi, nous avons annoncé le départ de Bruno Genesio, remplacé pour l'instant par celui qui tient la corde, comme on dit dans le
favori numéro 1,
Davide Ancelotti. Pour l'instant, c'est lui le choix. Il y a peut-être d'autres pistes, mais pour l'instant, c'est comme ça que ça pourrait se goupiller. Thiago Motta vient un petit peu plus loin, il n'y a pas eu de contact encore.
Donc Olivier Létang ne veut pas un coach français?
A priori, non. Mais on le savait qu'il avait envie de s'orienter. C'est tout l'inverse de Marseille, qui eux veulent faire du français. Marseille veut faire du français alors que pendant des années, il n'y avait plus un entraîneur français qui pouvait s'approcher du Vélodrome.
Je comprends pas.
Eux, ils veulent faire français.
Je comprends vraiment pas ça non plus.
Ils veulent faire français. Ouais. C'est Stéphane Richard. En même temps, Stéphane Richard ne connaît pas le foot. Déjà qu'à la base.
Greg Lorenzi connaît le foot quand même.
Oui, mais c'est Stéphane Richard le patron. Déjà qu'à la base.
Donc c'est Stéphane Richard qui décide.
Alors,
de
Stéphane
coach,
Richard, déjà, c'est le peu. Bon, on va me dire que c'est pas forcément rédhibitoire et tout, mais le foot d'aujourd'hui propose tellement de choses. Donc c'est un président qui connaît le business, qui est peut-être là pour mettre le club en ordre pour le vendre, qui connaît très peu le football. Le peu qu'il le connaît, il est supporter du PSG. En tout cas, toute sa famille l'est. Donc,
lui, il a un rapport particulier avec Marseille. Il avait dit quand
il a grandi à Marseille.
Parce que Orange, machin et tout. Enfin, sa famille.
Oui, sa famille a le droit d'être pour le PSG. Excuse-moi, là, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Ta famille peut être pour le PSG, tu peux être pour Marseille ou pour l'AC Milan.
Ça n'a aucun sens, évidemment. Très bien. Je sais très bien qu'aujourd'hui, Christophe Galtier a entraîné le PSG et que ce genre de choses existe.
Ça n'a rien à voir. La famille et toi-même. Tu peux avoir toute une famille qui est pour un club.
Bon, revenons à Genesio.
Mais Stéphane Richard, déjà, le foot, il connaît pas. Déjà, d'une.
Donc il ne connaît pas, c'est lui qui va mettre Genesio à l'OM? Ou c'est Greg Lorenzi quand même, j'espère?
Mais les contacts sont... Non, Genesio, c'est Galtier, c'était le choix 1, mais Galtier, visiblement, c'est trop cher.
Ah, Galtier, c'est le choix 1 de...
Ouais, mais visiblement trop cher, donc ça peut être Genesio qui était le choix 2.
Mais c'est quoi, il vient quoi? Il vient pour 20 bâtons, Genesio? C'est quoi trop cher?
Galtier, je te dis.
Ah d'accord, oui, mais donc Genesio vient pour un salaire, parce qu'il a quand même une cote aujourd'hui, Genesio.
De toute façon, Marseille, c'est pas toi que je veux le dire, tu le sais très bien, tout est fermé.
Oui, le robinet est fermé.
Macourt n'en met plus d'oseille, il estime que tout le monde s'est foutu de sa gueule et tout le monde, en gros, a tapé dans la caisse. Et honnêtement, c'est difficile de lui donner tort. Moi, sa place, je me serais cassé depuis longtemps.
Qui a tapé, enfin?
Non, j'ai pas dit, ils ont tapé dans la gueule. Il a le sentiment que, en s'étant comporté comme ça, certains joueurs, c'est un petit peu comme s'ils avaient joué avec son argent. Pour prendre l'expression exacte, d'ailleurs, c'est la colère qu'il avait piqué la dernière fois qu'il était venu dans le vestiaire aux joueurs. Il dit: vous jouez avec mon argent. Vous jouez avec mon argent, mais en gros, vous m'avez fait perdre beaucoup d'argent.
Donc là, c'est fini, rideau.
Donc là, maintenant, c'est rideau à l'OM. Et là,
la décision quand même de Genesio acte le fait qu'il va à l'OM pour moi.
Alors attends,
pardon, que... je le décrypte.
Bah,
oui, s'il quitte Lille, s'il quitte Lille, Gilbert, pour se retrouver Fanny,
bah, il peut aussi quitter Lille pour se dire.
Oui, pourquoi pas.
J'attends enfin, de voir.
En termes de, timing. Être sollicité par Monaco et l'Arabie Saoudite, je pense qu'il ne veut plus y aller. Il avait été sollicité, mais je crois qu'il ne veut plus tellement. Donc Marseille, oui, ça va
devenir. Parce que moi, de ce que je savais, c'est
d'actualité.
C'est que Genesio temporisait un petit peu parce qu'on lui avait fait comprendre que, par contre, s'il allait à l'Olympique de Marseille, c'est pour des raisons bien précises. C'est qu'il n'allait pas avoir un effectif. Avec beaucoup beaucoup de moyens et qu'il a, il allait devoir faire comme il a fait à Lille, c'est-à-dire composer avec bah les.
Ah mais à Lille il a des jeunes et il avait des jeunes. Et c'est Marseille en termes de jeunes que à faire monter.
Ah oui, y a après pas je pense monde, même hein. que globalement ça va Marseille problème, va avoir ça, un effectif compétitif. Avec, de toute façon on se rend bien compte quand Ligue 1 avec pas grand chose t'es capable d'impacter des résultats. On l'a vu avec Lyon, on l'a vu avec Lille, on l'a vu avec Brest l'année dernière, on l'a vu avec Nice l'année dernière.
Donc ah, ça avec Lens cette année, voilà,
ou avec,
voilà, aussi
avec Lens, avec un peu moins de pression, avec une restructuration comme Kevin l'a dit cette semaine, et même toi t'es capable de faire de belles saisons. De toute façon l'OM on l'a bien compris, c'est une saison 1 très bien, une saison 2 cata, et c'est le cas depuis 10 ans. Donc mais moi c'est comme ça que je le prends en tout cas, Gilbert, c'est que Genesio quitte Lille pour aller chercher en tout cas un projet. Tu parlais de Monaco c'est aussi une possibilité parce qu'apparemment Bocconioli peut aussi partir.
Enfin, moi j'en arrive pas, ça mettra du temps, ça va s'évacuer, on est encore dans la fin de saison, mais honnêtement l'OM c'est un énorme gâchis.
Ah oui, mais
c'est
absolument
terrible. Je me le répète, ça me tape la tête.
Ils ont gâché leur saison,
l'OM ils ont gâché, mais de façon monumentale.
Ah oui,
ils avaient la Ligue des Champions l'année dernière, la Ligue des Champions cette année, ils pouvaient se construire, continuer à avancer. C'est absolument fou la façon dont ça a explosé. Là on va revenir en arrière, pas de moyens, McCourt qui fait la gueule, qui veut plus mettre d'oseille. Bon, après maintenant s'il finit par trouver enfin à qui vendre le club, parce que là on a Marseille qui veut vendre, il y a Nice aussi. Bon, ça je pense que les supporters niçois seront contents. Tout le monde à Nice sera content si Ineos se décide enfin à vendre, mais Nice c'est pareil hein. Il faut que ça change de propriétaire.
Ouais. Mais c'est vrai que
déjà content de rester en Ligue 1 d'ailleurs, demain on aura le match
de Marseille. Alors même si attention, peut-être que Genesio ça va fonctionner, ça va, parce que Genesio il a un énorme bilan à Lille hein. Parce que moi j'ai souvent été sceptique, etc. Mais il faut le dire. Première saison, il est qualifié en barrage. Fenerbahçe, Slavia Prague, il fait top 8. Il y a très peu d'équipes en Ligue 1 qui sont qualifiées comme ça avec deux tours de barrage. Derrière, il fait cinquième. Je crois qu'il a 60 points à égalité avec Nice. Ça se joue à la différence de but sur sa première année. Ou la deuxième partie de saison, il a plus personne. Les Zegrova, il a blessure sur blessure. Cette année, il perd quand même Diakité. L'année d'avant, il perd Lenny Oro, il perd Jonathan David cette année, Alexandro sur blessure. Il arrive à faire top 3, il se fait sortir par Aston Villa, qui est l'équipe qui a gagné l'Europa League. Bon, le bilan, il est très très costaud, bravo.
Bien sûr,
hein.
Bien sûr.
Après, est-ce que ça va fonctionner à l'OM, c'est autre chose.
Le bilan de Genesio est très bon, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, tu sais qu'à l'OM, il faut quand même qu'il y ait une petite flamme.
Ah oui, une excitation, c'est vrai que c'est pas excitant, Genesio. Genesio à l'OM, je suis pas excité. Mais voilà. Après, est-ce que c'est ça qu'il faut à l'Olympique de Marseille?
Non, mais bien sûr. Ce qu'il faut, c'est des résultats. Le seul truc, c'est que aujourd'hui, le projet qui m'est décrit aujourd'hui, c'est un projet qui semble être très professionnel, très sobre, mais qui ne colle pas forcément à l'image de l'OM. Maintenant, c'est peut-être ça dont ils ont besoin. Le temps le dira, mais franchement, c'est un peu. C'est un peu.
C'est pour ça qu'à peine le thème est arrivé sur la table, j'ai été à nouveau pris de cette image de l'énorme gâchis. J'y pensais plus, mais là, c'est voilà, j'y pense. Bon, ouais.
Mais normalement, le projet OM, normalement, c'est qu'il y a.
On passe de Deserbi,
parce que notre Ligue 1 est ce qu'elle est aujourd'hui, on a besoin de nos clubs phares. Et cette année, on a vibré avec Lens, c'est formidable ce qu'ils ont fait. Mais on a Marseille qui va recommencer un nouveau projet à zéro. On a Monaco où normalement on avait quand même au minimum, même avec le peu d'ambiance qu'il y a là-bas et tout, t'as toujours une tradition de beaux joueurs de foot qui jouent à Monaco où tu te régales quand même avec des beaux joueurs. Là, pareil, c'est pareil. Il termine dans la panade complète.
S'ils n'avaient pas tous pété les plombs, normalement, tu vas chercher Amorim là.
On conclut là-dessus dans quelques instants avec Mamad au 32-16, les gars. Tu es supporter de l'OM. Et ensuite, on passera à l'actu international. Un mot également sur le barrage de demain entre Nice et Saint-Etienne. On est là jusqu'à minuit dans l'after. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h37, Walid Acharchour, Daniel Riolo et Kevin Diaz sont là. On a Mamad au 32-16 pour conclure sur le dossier. Hein,
c'était pas dans l'after qui va faire mal aux oreilles de beaucoup de gens.
Alors on a eu une révélation. L'agonie d'un homme en or.
Ah, c'est fou ce qu'on a entendu.
Aïe, aïe, aïe.
Mamad, bonsoir.
Bonsoir.
Supporter de l'OM.
Supporter de l'OM, malheureusement, on n'a pas été gâté cette année. Franchement, on passe d'entraîneurs spectacles qui ont de la bouche des Herbi à Big Bay et un directeur sportif aussi qui fait que du cinéma à au moins un entraîneur travailleur, sobre.
Donc toi, Genesio, tu prends ?
Genesio, je prends. J'aurais voulu Eric Roy, l'entraîneur de Brest, qui a fait du bon boulot avec une deux chevaux. Et qui l'a rendu Clio 5. Mais là, à Marseille, franchement, il y a qui d'autre sur le marché qui veut venir dans un club qui est totalement à la ramasse et un entraîneur de qualité, quoi. Et Genesio, partout où il est passé, il a quand même apporté un petit plus au club qu'il a entraîné.
Bon, bah écoute, voilà. Je sais pas si l'ensemble des Marseillais sont sur la même longueur d'onde que toi.
Je pense que les Marseillais sont tellement désabusés, sur WhatsApp, même les Marseillais ont besoin de vacances par rapport à
sur WhatsApp. Exactement. On est plus à se questionner est-ce qu'il est adaptable au contexte, en fait.
De toute façon, si on compensait pouvoir s'adapter, ils ne seront pas adaptés.
Tout le monde,
il y a plus de certitude à l'OM. On sait même plus quoi penser et comment t'adapter ou pas t'adapter et comment maîtriser ce contexte.
On avait trois personnes avec un caractère très très chaud et bien trempé, Longoria, Benatia et De Zerbi. Là, on va en avoir trois aux antipodes avec Richard, Lorenzi et Genesio. Le problème de l'Olympique de Marseille, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'on passe du tout au tout, en fait. Il y a pas de mix. Il y a pas de juste milieu. C'est-à-dire qu'on fait, tu vois,
c'est soit la pizza,
rouge noir,
soit la pizza ananas,
rouge noir.
Mais en tout cas, les gars, en tout cas, Benatia, moi, je suis vraiment heureux qu'il ne soit plus là. Parce que franchement, les discours, il se prend pour... Je ne sais pas pour qui il se prend. Ça a été un très bon joueur, ok, un agent. Mais voilà quoi, il arrive, il n'avait pas d'expérience en tant que directeur sportif. Quand tu l'entends parler, tu as l'impression que tu as affaire au crack de chez crack. Mais finalement, il est comptable des résultats de l'OM. C'est lui qui a ramené les entraîneurs, c'est lui qui a ramené certains joueurs. Voilà quoi, franchement, qu'il aille ailleurs, c'est bon.
Il m'a pas dit. Là, c'est fait, c'est plus la peine.
Tu charges Mehdi Benatia, il a au moins eu le mérite de s'exprimer, parce que moi j'attends toujours que Pablo Longoria, par exemple.
Lui, tu l'entendras plus terminer. Il a dit au moment, là, c'est fini.
Mais il n'y a jamais eu finalement.
Il est arrivé en plate, là.
Ouais, mais il n'y a jamais eu de. Il est parti, en fait, en loose day, là, sans explication.
C'est bien parce qu'il a
choisi
un club calme, par contre.
Mais bon. J'aurais bien aimé, quand même, que Pablo Longoria vienne donner une belle grande interview.
Il en avait assez dit.
Il est le bienvenu.
Je crois qu'à partir du moment où il a fait sa sortie corruption à Auxerre, je pense que son aventure, en fait, elle était finie.
Merci, Mamad.
Merci à vous.
Salut, Mamad. Un mot du match de demain, les gars. Demain sera en intégralité sur RMC. Saint-Etienne-Nice, donc match aller de barrage. Vous avez suivi l'affaire de la mise à disposition des joueurs. À 24 heures du match, on peut dire qu'à côté niçois, 6 des 7 internationaux concernés par l'imbroglio Ligue FIFA OGC Nice pourront jouer. Seul le Tunisien Abdi est en l'état bloqué par sa sélection, entraîné par Sabri Lamouchi, hein, la Tunisie d'ailleurs, si vous l'aviez oublié. Donc Sabri Lamouchi ne veut pas libérer, enfin en tout cas la fédé tunisienne ne veut pas libérer.
C'est un peu dur quand même.
Abdi.
Pour des matchs aussi importants pour la survie d'un club et tout, la sélection.
Là, le problème, c'est la responsable, c'est la LFP d'avoir mis ce barrage-là.
D'accord. Mais une fois que les responsabilités, on la connaît initiale, après, derrière, tu as le droit de t'arranger. Tu dis, le gars, il lui reste 2 matchs, c'est vital pour son club. Le club, c'est quand même ce qui te paye au quotidien, c'est très important. Tu vois, la sélection, là, c'est pas demain.
La sélection africaine, c'est un problème, c'est que.
Ouais, c'est toujours son tributaire.
Non, mais en fait, c'est que les clubs, quand il faut laisser les joueurs dans ces sélections-là, quand il y a date FIFA ou pas date FIFA, et ils se privent pas, hein, ils en ont rien à cirer. Donc, en fait, de l'autre côté, il y a peut-être un renvoi de l'ascenseur.
Ah, bah oui, mais alors, si la vie, c'est se renvoyer les ascenseurs, là, en l'occurrence, je pense que lui aurait aimé aider au maintien de son club.
C'est quand les 26 de l'Algérie, là?
Non, mais de toute façon, là, c'est honteux ce qui se passe en Algérie. T'as pas vu l'histoire?
Oui, c'est à côté, c'est en fait,
la liste, c'est samedi proche, c'est le 31, donc dimanche prochain, d'accord? Mais il les a tous appelés à Sidi Moussa, donc le Clairefontaine algérien.
Donc, en fait, tout le monde surveille qui vient.
Non, mais en fait, la liste, tu l'as à l'aéroport, quoi. Non, mais c'est exceptionnel. Non, mais Petrovic, c'est. Non, mais...
Comment ça à l'aéroport?
Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont tous, en fait, ils ont été, conviés à Sidi Moussa aujourd'hui. Donc tous ceux qui
là.
Donc tous ceux qui sont pas là ne sont pas dans la liste. Il a convoqué 30 personnes et la liste sera de 26 dimanche prochain. Donc okay, en fait à l'aéroport, tu sais ceux qui sont pas là. Donc Bounedja n'est pas dans la liste, Kebal n'est pas dans la liste, ça c'est une honte. Voilà, enfin c'est au lieu de faire une liste de 30 avant que les mecs arrivent comme tout le monde, bah non, on fait différemment. Mais c'est exceptionnel.
Donc, voilà, il veut pas donner sa liste.
Après, c'est innovant, c'est bien.
Ça ressemble à
rien compris, mais c'est ça que j'ai dit.
Ça ressemble à chaque 90.
Mais non, c'est pas
au dernier moment, et au dernier moment, ils vont en mettre 6
dehors. Oui, mais non, mais à l'aéroport.
Non, mais là, c'est pire, ce que dit Walid.
En fait, à l'aéroport, à Alger, avec les vidéos des journalistes, tu sais qui a dans la liste ou pas. En fait, tu vois là, sur TF1, t'as la liste de Deschamps. Ouais, d'accord, bah toi, c'est sur Twitter que tu l'as. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mec, un journaliste algérien, qui dit, bah, Amine Gouiri vient d'arriver à Alger, bah, et tu sais qu'il est dans la liste.
Oui, si par exemple,
tu fais la liste comme ça, en fait.
Par exemple, un joueur algérien se pointe en vacances.
Oui.
Il va dire, je sais pas moi, Ali Bouafia est dans la liste. Bah non, il est à la retraite depuis longtemps. Tu vois, c'est pas.
Ok, d'accord.
Non, mais c'est de la merde.
Mais enfin, d'accord.
Il les a convoqués par SMS, quoi, mais il n'y a pas eu de liste vraiment.
Voilà, il n'y a pas encore de liste. La liste sera dimanche prochain. Et par exemple, Marais. Ouais,
il voulait un JT de 20h, quoi.
Ah oui, non, mais une liste, quoi. Une liste. Tu fais une liste.
Ça m'a permis de citer Ali Bouafia, le CR7 de Strasbourg, surnommé Mouche, que je salue.
J'ai pas tout compris, mais ok.
Il a toujours pas compris ce que je dis depuis tout à l'heure.
Laisse tomber, on passe à autre chose.
Je sais que je sais pas bien m'exprimer, mais quand même, c'est simple en fait. Expliqué. Les mecs arrivent à l'aéroport.
Ils voulaient une liste, putain. Tu donnes une liste à l'AFP.
En fait, tu découvres les joueurs parce qu'ils passent à l'aéroport, en fait.
Mais oui,
c'est le douanier qui te dit, Walid,
mais non, quoi.
Mais pas le douanier, mais au dépose minute, tu les vois arriver, les mecs, au dépose minute, ils sont dans la liste. Ceux qui sont pas là, ils sont dans la maison.
Mais qu'est-ce que ça peut faire? Tu les vois. Mais d'accord,
mais je sais pas, tout le monde fait une liste. On fait une liste.
Qu'est-ce que ça peut faire? S'ils arrivent à l'aéroport, t'as qu'à te pointer à l'aéroport, tu les verras, t'auras ta liste.
Mais c'est pas un fonctionnement normal, en fait. Il y a une communication. Il y a une fédé, il y a un truc, il y a quelque chose.
Mais alors, c'est un fonctionnement original.
C'est très original.
Est-ce qu'on a commenté
il dit qu'il y a un coup dans le train, un coup dans le train,
Attends,
laisse-moi. Je veux savoir s'il met le charbon dans la loco, Petkovic.
Non, là, je suis là.
Un coup tient pas.
Je vais peut-être remonter, mais je suis descendu. Mais j'ai oublié de remonter parce que l'Algérie, je supporte l'Algérie, mais il fait n'importe quoi. Tu veux que je te dise? Il fait n'importe quoi.
Il avait dit que t'étais dans le train, t'y es plus?
Je suis au minibar là, je suis pas au minibar, c'est quoi le wagon bar? Je prends des dragibus et je vois.
Ah, donc tu sais pas.
Ouais. Mais t'es quand même dans le train.
Mais je suis obligé, je vais à la Coupe du Monde,
T'es dans le train d'Algérie ou dans le train de Petkovic?
Ok, mais c'est bon, allez.
Dans un instant, le foot européen. La liste des 26 de l'Espagne. Là, ils ont fait les choses dans l'ordre avec quelques surprises.
C'est possible d'aller au 5e pour perdre au 5e là, mon fils, c'est ouf.
Et mon fils, un point, Eric Salio, que se passe-t-il dans 5e set?
Tu le fais quoi là?
Bah, il a très très mal débuté le 5e set.
Ah,
faut dire que
Hugo
Gaston était très intelligent. Non, il t'a fait croire qu'il était cramé, mais il a lâché le 4e. Et puis Gaël fait que des fautes. 3 jeux à 0 pour Hugo Gaston dans la 5e manche. Et 0-30.
6-0, ce serait terrible.
Ah oui, mais ça me rappelle un scénario contre Andy Murray.
Ça me fait penser à Murray.
Exactement.
En même temps, Walid, mercredi, comme ça, tu gagnes une soirée.
Ouais, je peux prendre Murray. Il m'offrira la pige, Gaël. Sur la fin de set.
3-0-0-30. Tu vas avoir un mois de juin compliqué. Mai, juin, tu vas bosser tous les jours.
Ah ouais.
C'est compliqué là.
C'est pas compliqué ça. Compliqué, c'est de débattre avec Kevin tous les soirs.
Allez, à tout de suite dans la
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h47, Kevin Diaz, Daniel Riolo, Walid Acharchour.
La liste de l'Italie, sinon, c'est à l'aéroport, c'est en train, c'est où?
C'est où sur la liste de l'Italie?
Ça sort quand la liste?
C'est quel rapport?
On voulait savoir.
J'ai la date.
En plus, aujourd'hui, il a mis le petit costume, genre sélectionneur italien, le mari.
Il paraît que la prochaine liste de l'Italie, c'est prévu le 30 mai 2030.
Ah oui, d'accord, voilà. Ok, d'accord.
2030, donc
ça fait un peu long quand même.
Je peux prendre rendez-vous.
Mais j'ai aucun problème.
Avec Didier Deschamps?
Avec Didier Deschamps.
Didier Deschamps.
Parce que dans un pays, on n'a pas le droit de changer de sport.
Quoi? C'est quoi du coup le water polo?
Mais on fait autre chose. Water polo, c'est autre chose.
Vous êtes au water polo? Non, vous êtes pas mal.
Il y a un truc qui s'appelle le tennis. 4 joueurs dans le top 20. Le vainqueur de Roland Garros, connu un mois avant.
Ah, et le ski. Ouais, les Italiens cartonnent aussi. Ah,
ouais. T'as le droit de changer de sport. Tu changes de tradition. C'est comme ça.
Comme okay, ça. C'est d'ailleurs, tu voulais parler.
En fait, c'est trop fort, lui.
Daniel, tu voulais parler de la dernière journée de Serie A.
Oui, c'est à l'image. Justement, c'est quelque part une transition derrière le chambrage un petit peu de bas étage, on va dire de rez-de-chaussée même. Néanmoins, il y a une explication au fait que justement il n'y soit pas. Il suffit de toute façon de regarder le championnat. On le répète assez souvent. Mais la dernière journée a eu lieu hier. Bon, il y a des résultats qui étaient. Alors, je pensais qu'on avait un peu tout vu la semaine dernière avec la Juve et qu'il y avait la Ligue des Champions dans les mains, qui devait juste gagner à domicile et qui a trouvé le moyen de perdre. Bon, ça c'était complètement dingo.
À la Milan,
contre la Fiorentina. Et hier, on a eu Milan qui joue Cagliari à domicile et ils perdent également. Malgré l'extraordinaire, irremplaçable, indispensable Adrien Rabiot, que Marseille regrette encore.
Parce et que la Gazzetta dello Sport a mis dans son 11 de l'année.
Oui, mais c'est bien la preuve que rien ne va dans le football de ce pays, évidemment. Tout se tient finalement.
Mais le mec qui les questions, les rimes.
Le milieu de terrain de Marseille doit regretter absolument et tout. Il termine 6e de Serie A.
C'est le meilleur milieu de terrain de ton championnat?
Ouais, absolument. Non, c'est pas déjà mon championnat. Bon, c'est ma sélection, mais pas mon championnat déjà.
Voilà, du championnat, si tu veux. Du calcio.
C'est mieux. Non, c'est pas non plus comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave, Kevin. Bref. Oui, l'équipe dans laquelle Modric a fait la pluie et le beau temps, oui, bah, tout ça a une explication en fait. Tu joues dans un championnat comme ça, l'équipe termine 6e, donc l'extraordinaire Allegri, coach qu'on est allé rappeler parce que ça devait fonctionner alors qu'il est fini.
Viré aujourd'hui. Hein.
Et donc à Milan, ils ont nettoyé tout le club.
Ils ont viré tout le monde.
Passé la serpillière complète. Chef de la cellule recrutement, directeur sportif, entraîneur, tout le monde. Il n'y a que Ibra qui a sauvé sa place, je ne sais pas comment. Je pense pour les photos et pour les pubs pour les cryptos. Que bon, bon, ils l'ont gardé pour
elle
ça.
Elle est bien immonde cette pub au passage.
Et donc
le soutien, c'est pas le soutien, le playback est dégueulasse.
Voilà. Et donc le doublage. Puisque le doublage, je vous parlais de symbole. Donc dans ce pays, deux des trois clubs phares n'iront pas en Ligue des Champions, donc la Juve et le Milan. Voilà, ça dit tout de ce qu'est le football là-bas. Dans le même temps, t'as Naples qui malgré tout fait une bonne saison, qui termine dans une espèce de conf hallucinant.
C'est lunaire, c'est exceptionnel.
Et le président De Laurentiis, Conte va quitter le club, peut-être pour prendre la sélection. Tu vois, on va faire encore dans la nouveauté.
Non, mais on a critiqué par exemple Marseille ou d'autres clubs, mais là, vraiment,
ils sont comme ça. T'en as eu parce que cette année, t'as quand même eu le sketch Gasperini-Ranieri à la Roma, où Gasperini a fini par garder sa place et emmener le club en Ligue des Champions. Ranieri, attention, c'est une figure à Rome. C'est le vieux papy et tout, faut pas y toucher. Et ils l'ont foutu dehors, les Américains, quand même, pour donner priorité à Gasperini. Bon, écoute, à l'arrivée,
non, mais là, la scène, elle est dingue.
Parce qu'il va en Ligue des Champions.
Entre Conte et De Laurentiis.
Bon, ben, termine ça.
De Laurentiis qui dit quand même l'Inter, si on n'avait pas eu les blessés, c'était facile.
Pour nous, là.
C'était pour nous.
La
et t'as Conte qui dit non, je suis pas d'accord avec ça, tu peux pas dire ça, bravo l'Inter et tout. Et les mecs, ils se chauffent. Oui. C'est exceptionnel.
Ouais, De Laurentiis, quoi.
Ouais. Voilà.
Et Combe va aller en Ligue des Champions.
Ouais. Magnifique.
Ça, c'était le projet.
Quel travail de Sech.
Et qui est très critiqué en Italie. C'est aussi la preuve que rien ne va dans ce pays.
Ouais.
Le mec bosse et tout, petit moyen.
Entraîneur à la mode,
club,
etc. Il doit avoir un Riolo là-bas qui doit dire arrêtez avec vos génies.
Ben non, parce que moi, justement, j'aurais dit le contraire, tu vois.
Ah ouais?
Moi, je l'ai entendu dire, vous ne pouvez pas comprendre.
Justement, c'est ce qui a été dit.
Avec les médias, il est comment avec les médias?
Il prend un peu d'eau.
Alors,
s'il pouvait, il ferait pas avec. Il ferait pas de conférence.
Bon, alors donc maintenant, je vais vous expliquer que c'est exactement ce qui s'est passé justement.
Bah voilà.
Et que je pense qu'ils ont eu tort. Là-bas, de le traiter comme ça.
Ah, mais ici non. Pour Luis Enrique.
Mais je signale qu'en 2010, ils faisaient la même avec Mourinho. Donc, quand t'es un pays qui n'arrive plus à te remettre en cause et que tu acceptes pas l'idée qu'il va venir d'ailleurs et tout ça, mais Mourinho, tu te souviens pas, il était en embrouille avec une tonne d'entraîneurs à l'époque.
Ah, ils ont fait ce que toi tu vas faire à Luis Enrique ici, en fait, ce que je veux dire.
Ouais, Lid, sans déconner. Au bout d'un moment, on rigole, mais il faut pas raconter n'importe quoi non plus, tu vois. À un moment, il va falloir quand même que tu ouvres les yeux sur tout ce que j'ai dit et que tu comprennes mot
pour mot. Top balle de match!
Aïe, on rigole plus là. Là, on rigole plus.
Les dernières secondes de Gaël, mon fils, sur le cours central, le Philippe Châtrier, parce que là, il n'y a plus d'échappatoire. Il y a 5-0. Il n'y aura pas de remontada. 5-0, 0-40. Il vient de commettre une double faute, Gaël. C'est drôle de fin, quand même, parce que, franchement, il y a une demi-heure, on pensait vraiment qu'il allait signer la remontada. Il a jamais perdu un match contre un Français. Une ovation énorme, donc le match ne va pas reprendre tout de suite parce que là le public pousse. Gaël, mon fils, mais il va prendre une bulle. C'est ça qui est dingue. Il va prendre une bulle pour son dernier match. C'était peut-être écrit, je ne sais pas. Ça ressemble peut-être à. C'est peut-être un résumé de sa carrière, mais en tout cas, c'est parti. Hugo Gaston qui lui a fourni un 5ème set fabuleux. L'échange s'installe avec Gaël Monfils qui lâche une praline en coup de revers. Ça revient. Non, ça ne revient pas. 15-40. La première balle de match est sauvée par Gaël Monfils alors qu'on est à 3h22. Et là, on voit bien que Gaël est cramé. Et on a vu la détresse d'Elina Svitolina qui est dans le box des joueurs. Elle-même a peut-être du mal à comprendre ce qui s'est passé parce que franchement, il y a une demi-heure, quand il revient de cette partout, qui s'adresse à son clan en disant plus qu'un les gars, je le tiens, bah non, ça lui a totalement échappé. Hugo Gaston était très intelligent tactiquement avec une campagne d'amorti. Deuxième balle de match, c'est parti. Quel bon fils qui a pu. Oh là là, c'est un coup droit qui part dans la page, 4 mètres dehors. Et Hugo Gaston signe l'exploit, signe la perf. Gaël qui touche la terre battue de Roland Garros avant de serrer la main à Hugo Gaston. L'ambiance est presque morbide, j'ai envie de dire. On s'attendait absolument pas à cette fin. Mais voilà, c'est Gaël Monfils. Parfois, il est surprenant. Mais bon, il garde quand même le sourire. Il félicite Hugo Gaston. Même si, au fond de lui, il se sentait capable de franchir ce tour et d'aller défier Cerundolo mercredi. Donc voilà, une petite cérémonie va s'organiser, j'imagine. Hugo Gaston qui montre du doigt Gaël Monfils, qui demande au public de l'applaudir une dernière fois. Mais ça va venir dans quelques minutes quand Amélie Mauresmo et Gilles Moreton vont entrer donc sur le central pour célébrer une dernière fois. Ça fait beaucoup d'adieux, hein. Stan Wawrinka sur le Simone Mathieu tout à l'heure. Et maintenant Gaël Monfils, donc battu 6-0 au 5ème set. C'est fini pour la Monf.
Bon, l'essentiel, c'est qu'Eric Salio reste. Il sera là demain soir, bien sûr. Salut Eric, bonne soirée.
Bon, ciao. Ciao. Je termine juste sur.
Rappelez-vous, parce qu'après, il y a les 26 de l'Espagne, il nous reste une minute.
Rien, sur comment Ligue des Champions. Non, mais j'étais encore en train de penser à Walid dans le train ou pas dans le train pour Luis Enrique aussi. Il y avait l'histoire du train et tout. C'était l'omnibus, il ne savait plus où il s'arrêtait.
Ah non, moi, j'ai toujours été dans le train, moi, sur Luis Enrique. Je le critiquais quand il était critiquable, mais ouais, j'ai toujours été dans le train.
C'est bien, donc tu vois, voilà.
Non, moi, je ne suis pas dans le train. Je conduis le train.
Donc, après, on peut le critiquer. Et Fabregas, pour le coup, moi je faisais pas, enfin moi je soutiens ce genre de d'homme novateur. Il n'a pas beaucoup été là-bas. Il emmène le club en Ligue des Champions.
Très belle histoire.
Bravo.
Vraiment,
belle équipe.
Ouais. Ouais. Et j'ai vu la fin là.
Quand avec trois Français.
Ouais, avec Da Cunha qui est franco-portugais.
Il a une équipe avec des mecs.
Ouais.
Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner en Ligue des Champions et tout. Mais enfin,
c'est une belle équipe. Moi, je trouve.
Ouais, mais bon,
top
c'est
alerte.
C'est un peu bizarre. Ça a l'air faiblard quand même. Hein.
Ouais. Mais c'est le prochain entraîneur à la mode quand même, Fabregas.
Vous avez quelques minutes à partir de maintenant pour envoyer liste par SMS au 732-16, liste pour ensuite gagner 10 000 euros ou bien le pack Coupe du Monde avec vidéoprojecteur, maillot des Bleus, ballon officiel, boîte de Lego, bref. Ça se passe maintenant, tirage au sort à suivre et vous serez rappelé si vous gagnez demain pour participer au jeu. Donc vous envoyez dès maintenant liste par SMS au 732-16. J'ai pas pu parler des 26 de l'Espagne, donc peut-être qu'on le fera demain. Aucun joueur du Real dans les 26 de l'Espagne. C'est dingue ça quand même.
Il n'y a pas de Eysen. Pas de Eysen surtout.
Aucun joueur du Real.
Eysen qui a été acheté pour 100 millions d'euros au Real Madrid qui n'est pas là.
Et voilà. Et le retour de Gavi qui n'avait pas été appelé depuis un an. Julien Cazard, lui, est là.
Bonsoir, bonjour à tous.
Ça va? Qu'est-ce qu'on a au programme
plein
ce soir?
Plein de forme. On va parler de Roland Garros.
Ça fait y avoir un direct. T'as fait y avoir le premier direct de.
Ouais.
Du Cazard enchaîné.
Bon, après, j'avais pas trop confiance en Gaël. Hein. Je vais pas vous mentir. Je l'ai vu arriver.
Je sais pas si Eric Salio aurait été bien accueilli.
Non, il n'aurait pas voulu. Il est très content d'avoir fini chez vous, je crois. Il sait très bien qu'il est très bien accueilli.
Demain soir, il faudra qu'on parle aussi des célébrations éventuelles du PSG, hein, parce que ce sera très encadré au Champ de Mars et pas Champs-Élysées.
Ça va bien se passer. C'est quand même des gens propres et bien élevés.
On a une information là-dessus.
Voilà, on en parlera demain soir. Très bien, donc vous parlez de Roland Garros.
Oui, spécial Roland Garros, des souvenirs, nos meilleurs souvenirs de Roland Garros.
Je sens que le nom de Gabriela Sabatini va tomber au bout de 3 minutes.
Très, très vite, ouais. Et de Steffi Graf surtout. Ah, moi, j'étais amoureux de Steffi Graf, pardon.
Oui, j'étais amoureux de Steffi Graf, oui.
Ouais.
Ça, dis donc.
Et Guga.
J'étais moins amoureux. J'étais amoureux de Steffi Graf, excusez-moi.
Tu n'as pas le cœur sur la terre battue?
Non, Guga, c'est. Non, moi j'étais.
Chez les hommes, c'était qui?
Michael Burnforce.
Ah ouais, vous êtes très années 80.
Bah oui.
Moi, j'adorais Miroslav Messir.
Bien sûr.
Un style un peu spécial.
Le Vilander Messir de je sais plus quelle année. Je pense que.
Messir à Roland, c'était pas non plus.
Moi, je dirais non.
Voilà qu'il a été le meilleur.
Il y a un match Messir-Vilander où il fait 2-3 services cuillères, ça dure 25 minutes par échange, c'est très long.
Grand fan de Gaston Gaudio ici.
Bien sûr.
Et de Yarko Nieminen.
Et de Monaco aussi.
J'aime bien.
Muster. Demain, soirée
Muster, Muster.
Avec Muster. Saint-Etienne, Nice au programme.
Tu vibres,
les nuits du Casar enchaîné, c'est tout de suite, salut les gars.
Nasser Al-Khelaifi sur un tournoi truqué.
Ah ouais.
RMC jusqu'à minuit.
L'Afterfoot.